Bonjour, bienvenue, il est 9h à Paris, 8h en temps universel, merci d'écouter RFI. À suivre, dans 10 minutes, vos questions sur l'actualité et dans 40 minutes, vos réactions sur le Tchad après la proposition de l'opposant Succès Masra de travailler avec le président Mahamat Idriss Déby. Mais d'abord, le journal international. Bonjour Alban Le Prince.
Bonjour Juan, bonjour à tous. À la une, c'est fini pour l'UNRWA. L'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens doit fermer aujourd'hui son bureau à Jérusalem sur ordre d'Israël. Quel impact pour les Gazaouis ? Élément de réponse dans un instant. Aux États-Unis, deuxième jour d'audition pour Robert F. Kennedy Jr., anti-vax aux positions changeantes sur l'avortement. Donald Trump l'a choisi pour le ministère de la Santé. Reportage à suivre en Géorgie, dans une pharmacie. Au sommaire, aussi après la sortie du Mali, du Niger et du Burkina Faso de la CEDEAO, le coup d'envoi de négociations. La communauté se dit ouverte au dialogue sur les modalités de sortie des trois pays. Explication dans ce journal. Et puis nous irons en Bretagne, à Rennes, où les habitants se réveillent les pieds dans l'eau. Dans la ville, en vigilance rouge, le pic de la crue n'est toujours pas arrivé et cela inquiète les habitants, vous l'entendrez. Et tout d'abord, cette vidéo diffusée ce matin par le djihad islamique palestinien. On y voit deux otages israéliens qui doivent être libérés dans la matinée dans le cadre d'un nouvel échange prévu par l'accord de cessez-le-feu, puisqu'une ONG palestinienne affirme que 110 prisonniers palestiniens vont être libérés aujourd'hui par Israël, accusés hier par des responsables du Hamas de retarder l'arrivée de l'aide humanitaire à Gaza. 3000 camions y seraient d'ailleurs entrés depuis dimanche, selon le ministère de la Défense israélien, chiffre qui n'ont pas été confirmés par l'UNRWA, l'agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens, officiellement interdite à partir d'aujourd'hui à Jérusalem sur ordre d'Israël. Guilhem Delteille.
Aux yeux d'Israël, Jérusalem-Est fait partie de son territoire et le pays a formellement demandé à l'UNRWA d'y cesser ses activités et d'évacuer les bâtiments qu'elle occupe. Mais au-delà de cette demande, l'UNRWA ne sait pas quelles seront les conséquences de l'entrée en vigueur de ces lois sur ses opérations. Marc Lassouaoui, responsable plaidoyer Europe de l'agence.
Il y a beaucoup d'incertitudes sur ce qui peut se passer et nous sommes en contact avec différentes autorités sur le terrain en demandant un petit peu comment est-ce que ces lois pourraient être appliquées. On n'a pas de réponse.
Les contacts entre l'UNRWA et les autorités israéliennes sont désormais interdits. Or, Israël contrôle tous les accès aux territoires palestiniens occupés. Les activités de l'agence en Cisjordanie et à Gaza pourraient donc aussi être affectées, alors qu'aucun autre acteur ne peut fournir les services qu'elle offre, estime Marc Lassouaoui.
Nous fournissons des services d'éducation. Avant la guerre, nous avions presque 300 000 élèves dans nos écoles à Gaza. Le HCR n'a aucun service d'éducation. Le HCR n'est pas préparé à ça.
Ces projets de loi avaient été critiqués par les partenaires d'Israël, mais le pays pourrait trouver tout de même un allié, Donald Trump, qui avait déjà attaqué l'UNRWA lors de son premier mandat.
Donald Trump qui poursuit ses annonces chocs sur l'immigration. Il veut faire de la base américaine de Guantanamo un centre géant de rétention pour 30 000 migrants sans papier. Aujourd'hui, seuls 15 prisonniers y sont enfermés. Autre déclaration hier de son administration, l'annulation de la prolongation du statut de protection temporaire pour 600 000 Vénézuéliens présents sur le sol américain. Le président des États-Unis continue aussi sa croisade contre, je cite, les wokistes. Il a signé hier un décret pour mettre fin au financement des écoles publiques qui enseigne la théorie critique de la race et sensibilise à la transition de genre. Aujourd'hui, deuxième jour d'audition pour l'un des poids lourds de cette administration Trump, Robert F. Kennedy Jr., désigné pour reprendre le ministère de la Santé, entendu par les commissions du Sénat. Une tâche difficile pour l'antivax sommé de s'expliquer sur ses positions contradictoires sur l'avortement qui effraie une partie des professionnels de santé. Le reportage en Géorgie pour RFI d'Edouard Maille.
Quelques clients patientent devant le comptoir. Jimmy Goodson tient cette pharmacie dans la banlieue d'Atlanta, comme son père avant lui. Dans l'arrière-boutique, l'électeur de Donald Trump a accroché une petite image du président au-dessus de son bureau. À ses yeux, Robert Kennedy Jr. n'est pas une menace pour les politiques de santé.
Il sera un bon ministre, mais je ne pense pas qu'il fera une grande différence. Ses marges de manœuvre sont limitées. Je ne pense pas qu'il pourra faire grand-chose pour les vaccins.
Robert Kennedy a gagné en popularité pendant le Covid grâce à ses propos contre les vaccins, mais Jimmy Goodson, lui, ne partage pas cette prise de position.
Je sais qu'il y a dans certains cas des effets secondaires avec des vaccins, mais ils ont permis d'éradiquer tant de maladies.
Jimmy explique que la santé n'a pas motivé sa décision de voter pour Donald Trump.
Notre pays est mieux ainsi pour la sécurité et contrôler l'immigration. Je me sens mieux à propos de l'état du pays depuis qu'il est de retour.
Après l'annonce de la nomination de Robert Kennedy au ministère de la Santé, plus de 75 scientifiques ayant reçu le prix Nobel ont publié une lettre estimant que ce choix serait néfaste pour la santé publique. Edouard Mike Cumming en Géorgie, RFI.
Et toujours aux États-Unis, un avion de ligne transportant 64 personnes s'est écrasé cette nuit à Washington après une collision avec un hélicoptère militaire qui effectuait un vol d'entraînement. Les deux appareils sont tombés dans le Potomac, le fleuve qui traverse la capitale fédérale. Il y a des victimes, assure le sénateur du Texas, sans en préciser le nombre. Les opérations de recherche et de sauvetage sont en cours dans des conditions extrêmement difficiles, selon les autorités. Il est 9h06 à Abuja, au Nigeria, où la CDAO se montre optimiste après le départ du Mali, du Niger et du Burkina Faso depuis hier et après plus d'un an de brouille diplomatique. Les trois pays de l'AES ne sont officiellement plus membres de la communauté. Des modalités de sortie doivent être négociées sur la liberté de circuler, les droits de douane ou encore l'avenir des programmes financés par la CDAO. Mais sur les principaux avantages, c'est une sorte de statu quo qui continue de s'appliquer, David Bachet.
Les passeports et cartes d'identité des citoyens de l'AES arborant le logo de la CDAO restent valables. Les droits de circulation ou d'établissement continuent de s'appliquer, les biens et services restent exemptés de droits de douane. Et cela jusqu'à nouvel ordre. Une décision présentée comme un gage de solidarité régionale, le Gambien Omar Aliou Touré est le président de la commission de la CDAO.
Cet arrangement restera en place jusqu'à ce que les modalités de notre engagement futur avec les trois pays soient entièrement fixées par la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CDAO. Quoi que décide la CDAO, ce sera dans l'intérêt des populations.
Depuis un an, les dirigeants maliens, nigériens et burkinabés n'ont pas de mots assez durs contre la CDAO, accusés notamment d'être à la botte de puissances extérieures et tout particulièrement de la France. Devant un tel mépris, comment Omar Aliou Touré envisage-t-il les négociations à venir? La réponse à RFI du président de la commission de la CDAO est à la fois concise et optimiste.
Nous avons reçu des notifications de la part de deux des trois pays concernés qui indiquent leur intention de s'asseoir et de discuter avec la CDAO. Nous avons hâte que commencent ces discussions.
Alors que les pays de l'AES ont maintes fois balayé toute perspective de retour en arrière, le président de la commission de la CDAO a rappelé à plusieurs reprises que la porte de l'organisation restait ouverte.
David Bachet. Retour en France pour terminer ce journal. L'Ille-et-Vilaine, le Morbihan, la Loire-Atlantique sont en vigilance rouge pour crue et le pic n'est toujours pas passé. Si aucune victime n'est à déplorer, plus de 1100 personnes ont été évacuées depuis dimanche. À Rennes, il est tombé 200 litres d'eau par mètre carré. Ce mois-ci, un record absolu qui suscite l'inquiétude des habitants. Le reportage d'Alexis Vivier.
Face à la Vilaine en crue qui n'en finit plus de monter, les habitants viennent par dizaines depuis deux jours observer un spectacle qui tourne à la désolation, comme dans les yeux de Juanita qui vit ici depuis 40 ans.
C'est assez catastrophique en fait. Je pense aussi le temps après de la décrue et du nettoyage aussi, qui va certainement être douloureux pour tous ces gens qui vont se retrouver face après à cette descente des eaux et les dégâts engendrés derrière. Quoi.
Et c'est le cas pour Aymeric Bouillot, le gérant du Bel Hôtel. Il est situé juste en face du canal, son établissement est inondé et il a du mal à imaginer une reprise d'activité.
Absolument personne ne s'attendait à ça. Le pic de la crue était prévu dans la nuit de lundi à mardi à 2h du matin, le pic. Et aujourd'hui, on ne sait même pas nous dire quand va être ce pic. Pour la semaine prochaine, l'établissement est fermé, mais ça se trouve, on ne pourra toujours pas y accéder. Tant que le parking est plein d'eau, on n'a aucun accès, aucune vue sur l'avenir. Donc voilà.
Surprise et stupeur partagées aussi par les résidents contraints de quitter leur domicile, comme Laetitia, valise à la main, elle regarde une dernière fois son salon.
On a très très peur de derrière, et puis voilà, de comment on va retrouver notre maison. Est-ce qu'on va avoir de l'eau dedans? Est-ce qu'on va avoir de la boue partout? Les assurances, comment ça va se passer? C'est compliqué quoi.
C'est bon, c'est fermé, c'est quoi
c'est
le programme
fermé. Bah voilà, bah, le programme, si je vais chez mes parents, je suis SDF.
Et vous revenez?
Bah on sait pas.
Et pour limiter les dégâts, la municipalité a fourni des parpaings aux habitants les plus exposés.
Alexis Vivier, la montée des eaux qui paralyse le trafic ferroviaire. Aucun train jusqu'à samedi au moins entre Rennes et Nantes et entre Rennes et le sud de la Bretagne. Il est bientôt 9h10, N'Djamena et Paris. Une heure de moins, temps universel. On vous retrouve, Juan Gomez.
Merci de nous avoir informé, Alban Leprince. Reste avec nous dans tout juste 30 secondes, RFI.